Inégalité propriétariste, inégalité statutaire. L'autre politique structurelle, en dehors de l'éducation et de la santé, qui aurait pu permettre une forte réduction des inégalités entre les classes sociales indiennes, est naturellement la redistribution de la propriété, et en particulier des terres agricoles. Malheureusement, aucune réforme agraire ne fut lancée, ni même soutenue au niveau fédéral. De façon générale, la Constitution de 1950, comme les principaux acteurs politiques de l'Inde indépendante, avait une approche relativement conservatrice des questions de propriété. Cela valait non seulement pour les leaders du parti du Congrès, mais également pour les leaders dalits, comme Ambedkar, dont le combat pour l'annihilation de la caste, titre de son discours censuré de 1936, passait par des mesures radicales, comme les électorats séparés et la conversion au bouddhisme, mais qui refusait de s'engager sur des mesures qui remettraient en cause le régime de propriété. Cette attitude s'expliquait en partie par sa méfiance vis-à-vis des marxistes, qui, dans le contexte indien, avaient tendance à tout ramener aux questions de propriété des moyens de production, quitte à négliger, selon Ambedkar, les discriminations subies par les ouvriers dalits de la part des non-dalits dans les usines textiles de Mumbai, et à feindre de croire que ces problèmes se régleraient d'eux-mêmes dès lors que la propriété privée aurait cessé d'exister. Au-delà du cas d'Ambedkar, il est intéressant de noter que de multiples débats eurent lieu en Inde dans les années 1950-1970 sur l'opportunité de réformes agraires ambitieuses, ainsi que sur la possibilité de fonder les quotas sur des caractéristiques familiales objectives, revenus, patrimoine, diplômes, etc., et non sur la caste. Ces débats butèrent sur deux contre-arguments principaux. D'une part, beaucoup insistèrent sur le fait que la caste était une catégorie pertinente pour réduire les inégalités et organiser les politiques publiques en Inde, à la fois du fait que les pratiques discriminatoires peuvent se fonder sur la caste en tant que telle et des difficultés considérables liées à la mesure des caractéristiques objectives. D'autre part, on craignait de ne pas savoir où arrêter la réforme agraire, et plus généralement, on n'était pas sûr de parvenir à un accord sur la meilleure façon de combiner le revenu, le patrimoine et les autres paramètres pertinents pour réguler le système de quotas, et au-delà, pour structurer la redistribution. Tous ces débats indiens sont essentiels pour notre enquête, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, nous avons déjà rencontré à de multiples reprises cette crainte de la boîte de Pandore de la redistribution de la propriété et des revenus, qu'il vaudrait mieux ne jamais ouvrir de peur de ne savoir comment la refermer. L'argument a été utilisé sous toutes les latitudes et à toutes les époques pour justifier le maintien en l'état des droits de propriété établis dans le passé. Nous l'avons croisé sous la Révolution française, parmi les lords britanniques, et lors des abolitions de l'esclavage et des débats autour de la nécessaire compensation des propriétaires. Il n'est donc pas étonnant de le retrouver en Inde, dans un contexte où se cumulent les inégalités statutaires et propriétaristes. Le problème est que cet argument pandorien ne règle rien au sentiment d'injustice et au risque de violence. En particulier, des parties importantes du territoire indien sont secouées de façon quasi continue depuis les années 1960 par des soulèvements naxalites maoïstes qui opposent pour une large part des paysans sans terre, issus des anciennes populations intouchables et aborigènes, et des propriétaires terriens, issus de castes plus élevées. Le terme « naxalite » renvoie au village de Naxalbari, dans le nord du Bengale, où des paysans sans terre s'emparèrent en 1967 des réserves de riz d'un propriétaire terrien et lancèrent le mouvement. Il est devenu synonyme de rebelles anti-gouvernementaux en général. Ces conflits se déroulent dans le cadre de systèmes fonciers et de relations de propriété qui n'ont parfois pas beaucoup changé depuis le féodalisme hindou et sa consolidation par le colonisateur britannique et qui encore aujourd'hui alimentent la spirale identitaire et les violences intercastes. Une réforme agraire ambitieuse, doublée d'une fiscalité plus redistributrice, finançant de meilleurs services éducatifs et sanitaires, aurait permis de tirer vers le haut les classes défavorisées et de réduire les inégalités indiennes. Des recherches ont également montré que les expériences limitées de réformes agraires menées dans certains États, notamment au Bengale occidental à la suite de la victoire électorale des communistes en 1977, avait conduit à des améliorations significatives de la productivité agricole. Au Kerala, La réforme agraire menée à partir de 1964 sous l'impulsion des communistes est allée de pair avec la mise en place d'un modèle de développement plus égalitaire que dans le reste de l'Inde, notamment en matière d'éducation et de santé. À l'inverse, les régions indiennes caractérisées par les systèmes fonciers les plus inégalitaires et la propriété terrienne la plus concentrée sont celles qui ont connu le développement économique et social le moins rapide. Des quotas genrés et sociaux et des conditions de leur transformation. Ensuite et surtout, les débats indiens sont essentiels car ils illustrent la nécessité de prendre au sérieux la question des politiques antidiscriminatoires, s'il le faut au moyen de quotas, et en même temps, le besoin de repenser et d'adapter sans cesse ces politiques afin de ne pas les figer. Quand un groupe est victime de préjugés et de stéréotypes anciens et établis, comme les femmes un peu partout dans le monde ou certains groupes sociaux spécifiques dans les différents pays, comme les basses castes en Inde, il est clairement insuffisant d'organiser la redistribution uniquement en fonction du revenu, du patrimoine ou du diplôme. Il peut alors être nécessaire de mettre en place des accès préférentiels et des quotas, les réservations dans le contexte de l'Inde, fondés directement sur l'appartenance à ces groupes en tant que tels. À la suite de l'Inde, de nombreux pays ont développé au cours des dernières décennies des systèmes comparables, en particulier quant à l'accès aux fonctions électives. En 2016, 77 pays utilisaient des systèmes de quotas pour accroître la représentation des femmes au sein de leurs assemblées législatives, et 28 pays faisaient de même pour promouvoir une meilleure représentation de diverses minorités nationales, linguistiques ou ethniques, en Asie et en Europe, comme sur tous les continents. Dans les démocraties électorales des pays riches, la forte baisse au cours des dernières décennies de la proportion de députés issus des classes populaires, ouvriers et employés notamment, a conduit à renouveler la réflexion sur les formes de la représentation politique, y compris sur la question du tirage au sort ou sous la forme d'un quota social. Un système qui s'approcherait des réservations à l'indienne et sur lequel nous reviendrons. Nous verrons également que des pays comme la France ou les États-Unis commencent tout juste à formaliser des mécanismes d'accès préférentiel à l'éducation et à l'enseignement supérieur, avec par exemple en France une prise en compte explicite des origines sociales sous forme d'un bonus pour les élèves à bas revenu parental ou issus d'un quartier défavorisé s'ajoutant aux notes, dans les algorithmes d'admission dans les lycées parisiens depuis 2007 et dans l'enseignement supérieur français depuis 2018. D'autres critères sont parfois ajoutés, comme le territoire ou l'école d'origine. Ces mécanismes s'approchent des dispositifs de quotas appliqués aux étudiants SCST au niveau fédéral en Inde depuis 1950, et plus encore des mécanismes d'admission expérimentés depuis les années 1960 par nombre d'universités indiennes, comme Jawaharlal Nehru University à Delhi, pour aller au-delà des quotas fédéraux, en prenant en compte à la fois les notes et un ensemble de points dépendant du fait d'appartenir au SCST, mais également du genre, du revenu parental et de la région d'origine. Que l'Inde ait été pionnière sur ces questions témoigne de la tentative du pays de faire face, avec les moyens de l'état de droit, à un héritage inégalitaire particulièrement lourd, lié à des inégalités statutaires issues des logiques trifonctionnelles anciennes et rigidifiées de surcroît par la codification coloniale britannique. Il ne s'agit pas d'idéaliser ici la façon dont l'Inde indépendante a fait face à cet héritage, mais simplement de constater que l'on peut tirer de nombreux enseignements de cette expérience. Les autres pays, en particulier en Europe, se sont longtemps imaginé que de tels dispositifs de discrimination positive étaient inutiles, puisque les membres des différentes classes sociales étaient réputés égaux en droit, en particulier face à l'éducation. On se rend mieux compte en ce début du XXIe siècle à quel point l'égalité formelle est insuffisante et doit parfois être complétée par des dispositifs plus volontaristes. Pour autant, l'expérience de l'Inde illustre également les risques que les quotas font courir en termes de sédimentation des identités et des catégories, et souligne le besoin d'inventer des systèmes plus flexibles et évolutifs. Il est possible que les quotas mis en place en faveur des SCST depuis 1950, puis des OBC depuis 1990, tout cela après des décennies de recensements coloniaux et d'assignations identitaires, aient contribué à figer les identités de caste et de jati. Le mariage à l'extérieur de la jati a certes progressé. D'après les enquêtes disponibles, il concernait à peine 5% des mariages dans les années 1950, dans les zones rurales comme dans les zones urbaines, pour atteindre 8% des mariages ruraux et 10% des mariages urbains dans les années 2010. Il faut également rappeler que le mariage intra-jati exprime la persistance de proximité et de solidarité sociale à l'intérieur de micro-groupes partageant des origines socio-professionnelles, régionales, culturelles ou parfois culinaires communes, bien davantage qu'une logique verticale et hiérarchique. Par exemple, si l'on mesure les probabilités de se mettre en couple avec une personne de même niveau de diplôme ou avec une personne dont les parents ont le même niveau de diplôme que les siens, alors on constate que le degré d'homogamie sociale en Inde, tout en étant très élevé, est approximativement du même ordre que celui observé en France ou dans les autres pays occidentaux. Rappelons par ailleurs que les taux d'intermariage entre les personnes issues de différentes origines nationales, religieuses ou ethniques sont souvent extrêmement faibles en Europe et aux États-Unis, nous y reviendrons, et que les jati indiennes reflètent pour partie des identités régionales et culturelles distinctes. Il est toutefois permis de penser que le mariage intra-jati, qui reste très élevé en Inde, exprime une forme de fermeture sociale, et que l'utilisation excessive de mécanismes de quotas et de stratégies de mobilisation politique fondées sur la caste contribue à pérenniser cette situation. Idéalement, un système de quotas devrait prévoir les conditions de sa propre transformation. Autrement dit, des réservations en faveur de groupes discriminés devraient prévoir de cesser de s'appliquer à mesure que le mécanisme mis en œuvre permet de faire diminuer les préjugés. S'agissant des quotas sociaux et non genrés, il paraît également essentiel de s'appuyer aussi vite que possible sur des critères socio-économiques objectifs tels que le revenu, le patrimoine ou le diplôme, faute de quoi les catégories visées, telles que les SCST en Inde, risquent de se figer et de compliquer considérablement le développement de normes de justice acceptables par tous. Il est possible que le système de quotas indien soit au milieu d'une grande transformation lui permettant de passer graduellement d'une logique s'appuyant sur les catégories statutaires anciennes à un système basé sur les revenus et les actifs détenus et sur d'autres critères socio-économiques objectivables et applicables à d'autres groupes. La transition paraît toutefois très lente et, pour pouvoir s'appliquer de façon juste, exigerait le développement d'un meilleur système d'enregistrement des revenus et des propriétés en lien avec la transformation du système fiscal, sur laquelle nous reviendrons dans la suite de ce livre. En tout état de cause, c'est en prenant pleinement la mesure des succès et des limites de l'expérience indienne qu'il sera possible d'aller plus loin dans le dépassement des inégalités sociales et statutaires anciennes en Inde comme dans le reste du monde.